France Inter.
J'aurais voulu en voir un, non par surprise, suscitant sa fuite, ce qui m'est souvent arrivé depuis le temps où j'habite ici, mais par effacement de moi-même jusqu'à le contempler. Seulement le contempler. C'était un désir intense et presque nostalgique, comme si autrefois les beaux mecs avaient été pour moi des sortes de cerfs, jeunes daguets ou vieux 18 corps, et qu'aujourd'hui, les cerfs étaient devenus pour moi les beaux mecs d'autrefois. Claudie Hunzinger est notre invitée ce soir à l'occasion de la publication de son nouveau roman intitulé « Les grands cerfs ». Et comme chaque soir, et surtout ce soir de la reprise, pourquoi ne pas nous faire plaisir en commençant par Janis Joplin, dont il est question dans « Les grands cerfs ». Où étiez-vous ce matin, Claudie, à l'heure du petit déjeuner ?
J'étais sur un banc, dehors,
avec ma tasse de thé et je regardais depuis cette terrasse suspendue dans la montagne ce poste d'observation privilégié. Je regardais devant moi la vallée, en bas de la vallée le village, derrière moi je sentais la forêt.
Il était quelle heure ?
Je me suis levée tôt. Il était 6h30.
Combien d'animaux avez-vous vu ?
J'ai vu des oiseaux seulement. Mais beaucoup d'oiseaux. Parce que, puisqu'il est question des cerfs ce soir, les cerfs ne se montrent pas comme ça. Voilà, les cerfs, c'est toute une histoire, c'est toute une approche, c'est toute une science, c'est toute une passion. Mais autour de nous, oui, il y a... Les oiseaux ne font pas attention à nous. Ils sont tout autour et ne font pas attention à nous, n'ont pas peur de nous. Donc ils sont là.
Depuis quand habitez-vous à l'autre bout du monde ?
À l'autre bout du monde ou bien au milieu du monde ? Depuis 50 ans.
Pourquoi avez-vous quitté la ville ?
Nous avons quitté la ville, Francis et moi. Alors, je dirais que nous avons été portés par un rêve. C'est un rêve qui faisait la loi. Nous avons été portés par la lecture, par la littérature. C'est comme quand on est amoureux. On tombe amoureux parce qu'on a lu des livres d'amour. Là, nous avons lu des livres. Nous avions lu, Francis et moi, des livres d'aventure, Jack London. Les Kerouac aussi, mais aussi les poètes, mais aussi les romantiques allemands pour Francis, mais aussi... Nous avions lu des livres de nature et des livres de poésie, des poètes. Nous avions les poètes dans notre sac. Et je pense que si nous sommes partis, c'est parce que nous avions les poètes dans notre sac et que nous avons fait un bond, nous avons fait un saut, nous avons quitté le cercle des adultes pour aller ailleurs, pour expérimenter autre chose, pour tenter l'aventure. Voilà, il était question d'aventure.
Et vous avez emménagé dans une métairie datant des années 1770, complètement isolée, il n'y avait pas de chemin qui y conduisait. Et avec vos livres de poésie, vous avez commencé à rêver le monde ou à habiter ce monde que vous ignoriez auparavant ?
Nous le rêvions et nous avons été obligés de l'habiter. Et nous avons été obligés de l'habiter en ayant comme marteau et comme clou des poètes. Voilà, au départ c'était ça. Mais très très vite, la réalité nous a rattrapés. Très vite, le monde des projets nous a rattrapés. Et nous sommes devenus des sortes de paysans. Nous sommes devenus des paysans. Il fallait devenir, être paysan, savoir faire les fenaisons. J'ai appris, moi, au cours de ces premières années, j'ai appris à accoucher une brebis, à aller chercher tout au fond l'agneau qui était mal placé. Et il fallait savoir comment déplier les pattes, chercher les sabots, avoir les sabots au creux de sa main, puis après les sabots, le museau. Et c'est seulement à ce moment-là, ayant un peu dépêtré tout ce qui dans le noir se passait, qui m'était invisible, mais avec les mains, tirer l'agneau dehors. Voilà, ça, j'ai appris à faner, parce que nous n'étions pas du tout des paysans, ni Francis ni moi, mais nous avons appris à devenir des paysans. Il le fallait.
Votre corps s'est modifié ?
Oui.
Votre esprit aussi ?
Oui, mon corps s'est modifié. Et les poignets de personnages dont parlait Breton sont devenus des poignets de bûcheron. Mais j'ai des poignets de bûcheron maintenant, j'ai des épaules de bûcheron. Oui, notre esprit aussi s'est modifié. Notre esprit a appris, nous avons appris. Parce que nous, cette maison, cette métairie est située entre deux mondes. Nous avons pu l'acquérir dans les années 70 parce qu'elle était très mal placée d'un point de vue paysan. Elle était haute, peu pratique, des friches, pas praticables aux tracteurs, un lieu perdu, déjà un interstice, déjà un intervalle, déjà quelque chose qui était plutôt du côté de la forêt. Donc nous nous situons entre la forêt et la vie sauvage, entre le village qui est en bas. Nous sommes entre les deux. Et c'est entre ces deux mondes qu'on se situe. Et je trouve que ces deux mondes, être là, à cette place-là, au départ on se dit qu'on est entre deux mondes, en position inconfortable. Mais c'est un inconfort essentiel. Parce qu'on ne quitte ni le monde humain, et qu'on approche le monde animal, et qu'on s'aperçoit que entre les deux, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de frontière.
Le temps s'est aussi transformé, la perception du temps. Regarder les oiseaux, effacer sa propre individualité pour faire corps avec la nature, écouter la nature, s'absenter de soi-même pour faire partie du vivant.
Oui, cette histoire, les grands cerfs étaient là dès le départ, il y a 50 ans. Ils étaient peu nombreux, 1, 2, peut-être 3, des solitaires. Et peu, ils sont installés en même temps que nous. Ça, je l'ai découvert tout récemment et c'est quelque chose qui m'a absolument bouleversée parce que je me suis aperçue que ces grands animaux somptueux qui avaient presque disparu au début du siècle, il y avait presque une extinction de l'espèce cerf dans les Vosges, avaient fait leur réapparition au moment de l'exode rural, profitant des pâturages qui étaient redevenus des friches. Et je me suis aperçue que nous nous étions installés, eux et nous, au même moment, dans ces mêmes territoires. Et que nous étions, d'une certaine manière, des frères, que nous avions une communauté de destin, mais pas seulement à cause d'une histoire de temps, mais parce que eux, les cerfs, s'installent dans des lieux qui ne sont pas traversés par des routes, par des lieux où il reste des friches, où tout n'est pas cultivé, où il y a du sauvage qui reste des lisières de forêt, des pré-bois, et que notre maison était située dans un pré-bois, dans des friches. Voilà, nous avions donc le même lieu, nous vivions dans le même lieu au départ, sans trop connaître leur présence, on la devinait seulement, on se demandait qui venait la nuit se poser chez nous, qui venait la nuit laisser des marques, des niches dans l'herbe ou dans la neige, qui venait la nuit et qui bouffait nos arbres, les fruitiers que nous venons de planter. Et c'est très lentement, moi je viens de la ville, même si j'ai eu une famille qui m'a très tôt initiée au monde scientifique, à la science des choses. Je savais petite déjà reconnaître un être, d'un chêne, d'un érable. Je savais reconnaître un pin, d'un sapin, d'un épicéa, d'un douglas. Les douglas, c'est merveilleux. C'est, quand on les touche, c'est soyeux. Les branches sont soyeuses et elles dégagent un irrésistible parfum de citron. Et on mâche du citron si on mâche des branches. Donc voilà, j'étais pas tout à fait innocente d'un point de vue scientifique. Je connaissais le monde, je savais le nommer. Francis aussi. On savait nommer le monde. Autour de nous, c'était pas des inconnus. Ni les arbres n'étaient des inconnus, ni les bêtes. Mais voilà, les cerfs, nous ne les connaissions pas.
Mais vous, Claudie Hunzinger, vous êtes comme les cerfs. C'est-à-dire que vous fréquentez les marges. Eux, ils fréquentent les lisières des champs et des prés. Et vous, vous fréquentez depuis pas mal de décennies les marges de la littérature. Ce livre qui sort en ce moment même, qui s'intitule « Les grands cerfs » est votre 10e ou votre 11e texte. L'aventure qui vous a conduite à vivre dans cette solitude si peuplée de poésie et d'observation des éléments et de la beauté du ciel, eh bien, vous l'aviez restitué sous forme d'un livre magnifique il y a pas mal d'années qui s'intitulait « Bambois », livre d'ailleurs épuisé, hélas. Et vous avez continué, grâce et par l'écriture, à restituer, vous qui êtes une très grande connaisseuse des romantiques allemands, à restituer vos états d'âme et vos perceptions sensorielles de l'univers. Qui vous a appris à lire ?
Je dis souvent que j'ai été élevée par une bibliothèque. C'est-à-dire que j'ai été élevée par une mère qui avait une grande bibliothèque. Une mère qui nous apprenait des poèmes quand nous étions enfants et que nous disions et que nous reprenions. J'ai été élevée à la fois, sans doute par mon père, dans une voie scientifique des choses, un monde scientifique. Mais ce monde scientifique s'est trouvé accompagné du monde de la poésie. Et le plus grand poème sur la nature des choses du monde, celui de Lucrèce, commence un poème scientifique qui explique scientifiquement les mystères du monde, les orages, sans y voir la main des dieux, les givres, les torrents, les inondations. Ce livre commence par une invocation à Vénus. C'est Vénus qui ouvre ce texte scientifique. Et je pense que j'ai, grâce à mon éducation, qui m'avait appris à nommer les choses du monde, et grâce à ma mère, qui m'avait appris les poèmes, j'ai eu une approche du monde à la fois scientifique et accompagnée de l'aide de Vénus, de la poésie, c'est-à-dire du sensible, du passionné, de l'enthousiasme, une aide, une approche scientifique et amoureuse du monde.
Je vous propose d'écouter la voix de Colette qui va évoquer la nature de son jardin, Archivina, du 21 novembre 1948.
L'île n'était pas clos qu'avant la vague de froid. Les premières joncianes, descendues des monts jusqu'aux floristes, buvaient de mon verre à dents. Un peu de mousse humide remplace leurs tiges, les aide à boire avant de les aider à mourir. L'azur intransigeant est leur seule beauté. La gentiane tend sa corolle sur des nervures de parapluie. Le cyclamen double ses feuilles de caoutchouc mauve. Les delvaises, c'est tout coton. Aucun des trois n'y perd sa séduction, ni son caractère d'innocence emblématique. Je n'oublie pas l'envahisseur qui est le narcisse. Il est partout. Il convoque annuellement ses fidèles. Aux avants, on le fête. Et comment fête-t-on le narcisse? Mais en le tuant. On le sacrifie par millions et millions. Ne nous attendrissons pas trop parce qu'il n'est bon qu'à ça. Jardin, jardin restaurant, jardin, paradis charmille, roseraie, paradis. Déjà les jardiniers de la ville disposent les rosiers qu'ils tenaient en coulisses par milliers. Ils les enrégimentent. La rose assume une beauté militaire ici.
Nous venons d'entendre Colette parler de son jardin. Vous, vous avez la chance, Claudie, de vivre dans la nature, une nature encore ensauvagée, même si les gardes forestiers s'y déploient avec des agendas extrêmement contraints. Vous nous parlez de la menace qui pèse sur cette nature, vous nous parlez aussi de l'extinction de certaines espèces animales, vous nous parlez des changements climatiques du monde que vous observez à partir de votre métairie, les hautes huttes. Votre livre est traversé par des fulgurances de poésie, par une appartenance pleine et entière, vous, votre corps, votre âme, votre esprit, à la nature, mais aussi par une réflexion politique, politique sur le devenir de cette nature. Je vais vous citer. C'était le 1er janvier. Une voix à la radio avait annoncé « On ne sait pas où va le monde. Il est devenu instable et dangereux. On vit un immense changement. » Assis sur le plancher, je pensais au changement annoncé. Je pensais au danger à venir, tout en tailladant au cutter un ancien rideau de coton vert fondu de bleu. Et je pensais que j'aurais au moins de quoi suivre, bien camouflé, les détails de cette nouvelle année qui s'ouvrait. Je la sentais venir sur un changement vertigineux. Et ce livre de poésie, d'éloge de la nature, est aussi un livre de philosophie poétique et politique.
Oui, poésie et politique, là, se rencontrent. Je dirais que ce soir, je ne suis pas venue toute seule dans votre studio. Je suis venue avec, j'ai l'impression, sur mes épaules, les arbres de ma forêt. Je suis venue avec les cerfs, ici ce soir. Je suis venue avec les salamandres, que je ne vois presque plus. Je suis venue avec le grand mars changeant, que je n'ai plus vu depuis 2 étés. Je suis venue avec les autres papillons. Je suis venue avec... je suis venue avec ce qui est en train de disparaître. Et si je suis venue, c'est pour eux. Voilà, parce que ils n'ont pas la parole. Ils ont une parole. Ils ont les bêtes, les cerfs. Les cerfs ont une culture. Les cerfs apprennent par l'expérience par où passer et mieux passer et se transmettent ça de vieux cerfs à jeunes daguets. Mais ils n'ont pas la parole humaine. Ils ne peuvent pas dire ce qui se passe. Les papillons ne peuvent pas dire ce qui se passe. Je croyais être à l'abri. Je croyais vivre ma vie de cabane depuis 50 ans, ma vie de refus, ma vie de poing serré, ma vie disant on peut faire autrement, en pensant que je passerai à travers. Mais voilà 2 ans, 3 ans que je m'aperçois que personne ne peut passer à travers. Et que les endroits les plus protégés, pense-t-on, les endroits où même personne n'épand de produits toxiques, même ces endroits-là sont atteints. Et je vois et j'ai vu le monde disparaître en 2 ans sous mes yeux. C'est quelque chose de vertigineux qui est en train de se passer. Et c'est parce que c'est vertigineux et parce que ça va très vite que je suis sortie des bois et que je suis venue accompagnée de tout ce monde sur mes épaules et derrière moi. Et il y en a plein dans le studio, on ne peut pas les voir mais ils sont là et je parle pour eux. Et je dis que... Je reprends Dickinson, Emily Dickinson. Emily Dickinson, elle dit, il faut au plus grand trésor, ou bien au plus grand gain, je ne sais pas comment traduire, l'épreuve de la perte pour qu'il devienne trésor ou gain. Et j'ai mal l'impression qu'on est en ce moment, dans cette situation charnière, vertigineuse, où quelque chose peut basculer à droite ou peut basculer à gauche, et que il est question de survie, et que nous sommes dans ce moment où on s'aperçoit enfin de tout ce qu'on pourrait perdre, de tout ce qui est sur le point d'être perdu, de tout ce qui était notre trésor, pour que enfin on s'aperçoive de ça, pour que ça devienne vraiment trésor. Alors j'espère que ça va devenir vraiment trésor et qu'on va protéger tout ça.
En même temps, on peut dire que vous êtes réaliste, pas forcément pessimiste, Claudie Hunzinger, et ce, depuis des décennies, quand vous écrivez des romans où vous faites l'éloge de la nature ensauvagée. En même temps, dans ce nouveau texte, qui n'est pas véritablement un roman, qui est un apprentissage philosophique et une sorte de méditation, qui ressemble furieusement à Lucrèce des Natura Rerum que vous avez cité en tout début d'émission, c'est un retrait de nos propres individualités dont il s'agit. C'est une sorte de nécessité de faire moins de bruit pour pouvoir écouter cette nature, d'être plus respectueux de cette nature. Mais les hommes et les femmes, ils changent. Vous avez 3 personnages dans ce nouveau texte qui s'intitule « Les grands cerfs ». Vous avez vous, qui êtes la narratrice. Vous avez votre mari, qui s'appelle Nils, depuis longtemps dans les autres livres précédents, qui s'appelle Francis dans la vraie vie, peu importe. Et il y a un 3e personnage. Et lui, il est jeune, il a 30 ans, il est écolo, il est bon, il casse toutes les cases, il est bon sous tous les rapports, il est super à la mode. Il vient, soi-disant, pour surveiller la forêt, les espèces animales. Mais durant l'évolution de votre roman, il va changer et il va se mettre du côté, finalement, de la commercialisation de la nature. Il va écouter les sirènes de celles et ceux qui disent « Oh, la nature, ça viendra après, profitons, continuons à la piller ». Il change, alors qu'il est jeune.
Oui, il change, il s'appelle Léo dans le livre, il est photographe animalier. C'est ça, n'est-ce pas? Oui, c'est lui. Il est photographe animalier. Et je crois qu'il est pris. Il est pris dans la compromission du monde. Il est pris dans une, tellement pris dans la dans la compromission du monde pour pouvoir continuer à faire ses photos, pour pouvoir continuer à approcher les serres. C'est-à-dire, il faut qu'ils s'entendent avec l'ONF d'un côté qui ne veut plus
de serres. L'Office national des forêts, dont il est beaucoup question dans votre livre.
Oui, il faut qu'ils s'entendent avec l'Office national des forêts. Il faut qu'ils s'entendent avec les adjudicataires, comme on nomme ceux qui ont acquis les droits de chasse et le droit légal de venir chasser partout. Et il y a compromis, sans forcément compromission, dit-il. Il y a trahison. Moi, j'ai senti trahison. Mais au départ, ce garçon était comme un sorcier yaki. Je lui dois tout. C'est lui qui m'a initié au cerf. C'est lui qui m'a appris, qui m'a dit, avant de vouloir écrire sur eux, observe-les. Il faut connaître leur passage. Il faut connaître leurs habitudes. Il faut te cacher ensuite. Très bien te cacher, devenir invisible sous un filet de camouflage pour pouvoir les observer. C'est une assaise, c'est une véritable passion. Il faut y donner tout ton temps. Il faut te lever très tôt le matin, à 4 heures, tu mets le réveil. Et à 4 heures, tu te lèves par le gel et tu sors et tu vas te poster où tu penses qu'ils passeront peut-être. Ou alors le soir, parce que c'est le soir aussi que tu peux les voir, si tu connais leur passage. Tu vas te poster et tu attends. Et on attend en effet. On attend enveloppé d'un simple filet d'affût. On attend enveloppé dans une petite cahute fabriquée n'importe comment avec des fougères. On attend quoi? Le passage de la beauté, de la puissance, le passage de la force sauvage des forêts qui nous vient du fond des temps. Bon, il m'a appris tout ça. Il m'a appris à les reconnaître. Il m'a appris à les nommer. C'était une magnifique initiation dans l'émerveillement. Et, à un moment donné, il m'a semblé qu'il m'a trahi. Seulement, moi je me suis demandé, j'ai pas tout de suite compris. Je me suis demandé si moi non plus, moi aussi, je n'étais pas compromise. Si moi aussi, en écrivant un livre, je n'entrais pas dans tout un système. Et je me suis demandé à un moment donné, quand il a tout lâché, quand il m'a semblé qu'il avait tout lâché, est-ce qu'il ne faisait pas ça pour que, enfin, moi, je dise « je » et que je m'engage et que je prenne les choses sur moi et que j'écrive ce livre et que j'y aille.
Vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Claudie Hunziker. Pour notre plus grand bonheur, c'est Mélanie.
Look what they done to my song, Ma. Look what they done to my song. Well, it's the only thing that I could do half right, and it's turning out all wrong, Ma. Look what they done to my song. Look what they done to my brain, Ma. Look what they done to my brain. Well, they picked it like a chicken bone, and I think I'm half insane, Ma. Look what they done to my soul. I wish I could find a good book to live in. Wish I could find a good book. Well, if I could find a real good book, I'd never have to come out and look at what they've done to my soul. La 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 la. It'll all be all right, Ma. Maybe it'll all be okay. Well, if the people are by in tears. I'll be rich someday, ma. Look what they done to my son. Ils ont changé ma chanson, ma. Et ce n'est pas bon, ils ont changé ma chanson. Look what they done to my son. Look what they done to my son. Well, they tied it up in a plastic bag, turned it upside down, ma. Look what they done to my son. Ils ont changé ma chanson. Ils ont changé ma chanson. C'est la seule chose que je peux faire. Et ce n'est pas bon, ma. Ils ont changé ma chanson. They done to my song, mama. Look what they done to my song. It's the only thing I could do all right, and they turn it upside down. Look what they done to my.
C'était devenu une obsession, contempler des cerfs. J'aurais aimé approcher leur présence, connaître leurs pensées, pénétrer leurs méditations, dormir dans leurs yeux, écouter dans leurs oreilles, me glisser dans leurs mufles, être leur salive verdie du suc des herbes, frémir sous leur pelage, bondir dans leurs muscles, m'enfoncer profondément dans leurs sabots, nager dans les vapeurs qui montent des prairies ou dans celles qui montent des grottes, cinq cerfs, nageant dans la brume aux parois de Lascaux, porter le poids de leur couronne, connaître une seconde, une seule, leur souveraineté, la mêler aux branches des forêts traversées, ne plus savoir si je suis cerf ou forêt en train de nager, de bondir, d'exister. Êtes-vous devenu cerf, Claudie Hunzinger?
Je pense que par proximité, j'ai senti à quel point nous qui vivions dans les mêmes friches et dans les mêmes forêts et dans le même espace rétréci et cerné par les humains, à quel point la part du non-humain m'est importante. À quel part ce qu'on appelle l'animalisme n'est pas un refus de l'humanisme, mais un prolongement de l'humanisme. Je me sens restée humaine, évidemment. Et en même temps, je me suis sentie agrandie par la proximité, par l'observation et par la connaissance et par l'admiration et par le désir de la beauté qu'il représente. Voilà, je suis devenue cerf dans ce point-là. Et je suis aussi devenue lièvre et je suis aussi devenue bécasse et je suis aussi devenue renard par proximité avec ce monde qui est autour de nous. Je fais partie de la communauté des hommes, comme dit Kafka, mais aussi celle des bêtes. Et je sens très bien qu'il y aura dans pas mal de temps et dans pas bientôt, je pense, un tribunal des bêtes, comme dit Kafka encore. Voilà, je sens que je suis concernée. Je suis absolument concernée par ce qui se passe du côté des animaux, du bord des animaux. Je suis du bord des animaux et du bord des humains. Et c'est simplement une augmentation de moi-même que je réclame, possible, et que je ne voudrais pas qu'on enlève. Et c'est pourquoi, dès le départ, j'ai beaucoup apprécié quand ma mère disait que l'écriture comme l'amour n'avait pas de genre. Parce que, par exemple, le mot écrivaine, la sonorité n'est pas très belle. Bon, ça m'est égal, vaine. De toute façon, tout est vain. Vanité des vanités. C'est pas ça, c'est pas la sonorité. C'est le fait d'être enfermé dans assigné à résistance.
Résistance ou résidence, c'est un beau lapsus.
Voilà, à résistance de ma résidence. Tout à fait, assigné à ça. Et ça, je ne le veux pas. Et ça, très tôt, n'ayant pas souffert de ma condition féminine, je crois que j'en ai fait l'économie et que j'ai pu bondir du mot écrivain, comme on disait il y a quelque temps, à écrivain d'autres intelligences, d'autres cultures, d'autres civilisations. Les cerfs ont une culture. Et
les cerfs ont beaucoup à nous apprendre. Ils sont solidaires, oui. Ils sont amoureux, ils sont subtils, ils sont intelligents. Que vous ont-ils appris ?
La façon dont ils lisent la montagne, dont ils bouffent la montagne, dont ils la ruminent. Et j'ai l'impression, quand je les vois, ils ruminent tout le temps. Ils sont tout le temps en train de brouter, ils marchent en broutant, ils avancent en broutant, et ils ruminent la montagne. Il y a déjà ça. Et j'ai l'impression que leur rumination est, puisque d'après Lucrèce, il n'y a pas de différence entre un livre et une prairie, les mots et le monde coïncident, il n'y a pas de logos au-dessus de nous. Donc quand ils mangent la montagne, quand ils la broutent et qu'ils la ruminent, c'est le poème de la montagne. Ils lisent le paysage, ils mangent le paysage en le lisant. Ils le connaissent bien mieux que moi. Il y a ça, il y a déjà ça. Il y a cette connaissance-là. Mais les Serbes ont aussi appris la perte. Ce qu'est la perte. Je ne le savais pas du tout au départ en arrivant là-haut, il y a 50 ans. Je ne savais pas que les cerfs perdaient leur bois au printemps. Et que presque aussitôt, de gros bourgeons se naissaient sur leur crâne qui était découronné et que quelque chose se remettait à repousser. Donc, ils m'ont à la fois appris à la perte, c'est-à-dire que tout le travail d'une année, ou alors pour moi, un roman de 3 ans, faut accepter de le lâcher, de le donner, de le livrer. C'est fini, ça y est, on va passer à autre chose. Ils m'ont appris la perte de ce qu'on est en train de faire. Si on pousse la méditation un peu plus loin, ils m'ont appris la perte du lieu où j'habite. Il faudra le perdre un jour.
Et revenir à la ville ?
Non, pas du tout. Non, un jour plus tard, quand je serai très très vieille, et qu'il faudra passer à autre chose d'inconnu. Mais ils m'ont aussi appris la perte en ce moment. La menace, l'énorme menace qui est autour de nous, ce qu'on appelle l'extinction. Ils m'ont appris ça. Et en même temps, je pense que par la perte, on est en contact aussi par moi, humaine. Je suis en contact avec le refus de cette perte. Je refuse. Je ne veux pas, j'accepte pas que la beauté du monde, j'accepte pas que la splendeur du monde se mette à disparaître comme ça, mais à toute allure. Je l'accepte pas. Donc, le sentiment de la perte peut faire naître un sentiment de rébellion. Voilà, j'en suis là. Je ne l'accepte pas encore. Et je suis encore dans la rébellion. Voilà, les cerfs m'ont appris ça, pour eux.
Il reste quelques cerfs autour de votre métairie, Claudie Hunzinger. Il n'y en a plus beaucoup parce que il y a des organismes d'État. Vous avez cité l'ONF tout à l'heure, l'Office National des Forêts, qui veille justement à l'extinction de certaines espèces. Vous racontez à l'intérieur de votre livre, par des pages glaçantes et en même temps extrêmement précises, comment des voyages de nuit se font en procession dans des voitures spécialisées pour essayer de repérer dans la nuit les cerfs trop nombreux ou d'autres espèces animales trop nombreuses. Et on a vraiment l'impression que l'homme a toujours peur des animaux et que il ne trouve comme seule solution encore aujourd'hui en 2019 que d'éteindre des espèces.
Oui, parce que je pense que ça s'appelle le comptage. J'ai été invitée. Merci beaucoup. Je suis contente d'avoir fait cette nuit. C'était magnifique. C'était magnifique et glaçant. C'était un voyage de nuit avec des grands phares, à la fois avec les adjudicataires de la chasse et avec l'ONF, les deux parties opposées. J'étais dans une voiture, je les suivais, et les phares, voilà, c'est un circuit très particulier qu'on fait plusieurs fois, toujours le même, qui nous permet de compter combien il y a d'animaux qui sortent la nuit, combien il y a d'animaux dans les prés. Et c'était magnifique, c'était comme des fantômes qui sortaient de la forêt et qui étaient là. Ils étaient tous blancs, et au départ, blancs de lumière, blancs de phares. Et au départ, je pensais que on faisait le comptage d'un peuple sauvage qui habitait près de nous, les animaux fabuleux dont parle Rimbaud. Et ensuite, au cours de cette même nuit, je me suis rendu compte qu'on faisait le comptage des animaux qui allaient être promis à la disparition. Parce que, c'est tout idiot, c'est parce que la forêt est devenue quelque chose, l'ONF, par l'ONF, qu'on gère à partir d'ordinateurs dans des bureaux. Et qu'on ne conçoit pas que la forêt est un écosystème. Et que nous, nous sommes également pris dans un écosystème. Et que la forêt n'est pas une usine à bois. Si c'est une usine à bois, si on ne tolère plus les serres, si on ne leur laisse plus des pré-bois, des sous-bois, des clairières, des friches pour se nourrir, alors évidemment, ils s'attaquent aux plantations, aux jeunes arbres. Voilà, donc il faut arriver à une cohabitation.
En ce moment même se tient le sommet G7 à Biarritz, dont on parle beaucoup, à l'ordre du jour depuis maintenant 48 heures, ce qui se passe dans la forêt d'Amazonie. Comment réagissez-vous à ces événements ?
Eh bien, j'ai l'impression que quelque chose s'est accéléré incroyablement, horriblement, que de jour en jour, nous avons des nouvelles effrayantes, des nouvelles qui nous plongent dans un état d'irréalité. On n'arrive pas à comprendre, à croire que c'est réel. Et moi, je n'en reviens pas non plus d'être née à un moment charnière, un moment charnière de l'humanité. Au moment où l'humanité peut basculer d'un côté ou de l'autre, faire le bon choix, le mauvais choix.
Ce qu'il y a d'extraordinaire à l'intérieur de la grâce de votre écriture, Claudie Hunzinger, c'est que cela fait longtemps que vous nous avertissez et que vous êtes une sorte de lanceuse d'alerte poétique et politique sur ce qui arrive à la nature en général. Cela fait longtemps aussi que des anthropologues ont essayé de nous lancer aussi des alertes extrêmement importante sur le plan philosophique et politique de ce qui était en train de se passer. Cela fait plus de 50 ans qu'ils ont écrit des textes fondamentaux. Nous les avons lus, nous avons cru que nous les avions lus, nous ne les avons pas véritablement compris. Écoutons ce que disait Claude Lévi-Strauss, l'auteur de Triste Tropique, à propos de l'existentialisme et de la séparation de l'homme d'avec la nature. C'est une archive INA du 23 juin 1976.
Je vous dirais que l'existentialisme qui, à mes yeux, représente, et ça n'est pas du tout une critique, bien au contraire, mais la dernière en date, et peut-être après tout la dernière, je ne sais pas, manifestation de la grande métaphysique, au sens classique du terme, enfin la métaphysique telle que la philosophie a essayé de la pratiquer au XVIIe, au XVIIIe siècle, bien, est éloignée de mes propres perspectives de façon, d'abord par cette espèce de coupure absolue qu'il établit entre l'homme et la nature, et d'autre part, comme une de ces manifestations de cette forme exacerbée d'humanisme, si je puis dire, que je dénonçais tout à l'heure. En séparant l'homme de la nature, on est amené obligatoirement à séparer un certain type d'homme d'autres types d'hommes, et ce que fait en somme l'existentialisme, c'est la théorie de l'homme occidental adulte et civilisé, alors que je crois que tout l'effort de l'ethnologie, c'est de replacer cette forme particulière d'humanité au sein d'une scène beaucoup plus vaste qui est celle de l'humanité totale telle que nous pouvons la connaître dans toutes ses manifestations, non pas seulement celles que nous connaissons par expérience directe et qui engagent nos intérêts immédiats, mais toutes celles que l'humanité a connues ou connaît encore.
Pourquoi n'a-t-on pas écouté Claude Lévi-Strauss ? Pourquoi n'écoute-t-on pas les savants qui nous disent tous les jours les menaces qui augmentent ? Pourquoi ce discours est inaudible ? Pourquoi en avoir fait le fer de lance de votre poésie et de votre littérature ? Pensez-vous que vous allez contribuer à faire évoluer notre conscience, Claudie Hunzinger ?
Il me semble que les artistes et les écrivains sont en effet, comme vous disiez, des lanceurs d'alerte. Et ça fait aussi un moment, je pense tout simplement à Joseph Beuys, qui, dans les années 70...
L'artiste plasticien.
Et je crois que sa première performance, c'était de tenir un lièvre mort dans ses bras, et de le bercer, et de lui parler. Et la deuxième performance à laquelle je pense, c'est la confrontation de lui-même, Joseph Beuys, avec un coyote. Le coyote représentant la part animale sauvage, celle des Indiens aussi. Cet autre bord des Américains qui ne veulent pas voir.
C'est par les Indiens et la revendication des territoires pour les Indiens que votre livre commence.
Oui, c'est vrai, exactement. Par la mort de Dennis Banks. Oui, il commence comme ça. J'ai placé le livre sous le signe de l'indianité, oui. Et puis la troisième performance, je crois que c'était dans les années 80, pour la documentaire de Cassel, toujours Joseph Beuys, 7000 chaînes de plantées. Voilà, donc les poètes, les artistes sont des lanceurs d'alerte. Ils sont là. Peut-être que c'est eux-mêmes qui m'ont alerté, moi. Et maintenant, c'est peut-être à moi de parler, c'est à moi. Je pense qu'un livre, et c'est pour ça que je suis venue ici, pour ça, je pense qu'un livre peut faire bouger les choses, un livre peut décentrer les choses, et qu'il a un rôle. Nous avons un rôle de passeur, un rôle d'alerte, peut-être parce que ça passe aussi par notre propre corps, notre propre expérience, notre propre chagrin. Et que si ça passe si fort par nos chagrins et nos expériences, le livre aussi en est plus fort. Et peut-être qu'on peut toucher. Voilà. Mais de toute façon, je m'aperçois autour de moi, c'est un motif de joie, c'est que la jeune génération est complètement, je veux dire, en avant de moi. Elle est en avant de moi. Elle est là. Et je pense aussi que c'est quelque chose qui était là depuis longtemps, parce qu'en effet, Eduardo Cone, un Américain qui a beaucoup parlé des Amérindiens, Philippe Descola, ces anthropologues qui ont, Lévi-Strauss, parlé de cette séparation qui est absurde entre nature et culture, avaient déjà été annoncés par Empédocle. Empédocle disait que nous avons été déjà... Empédocle, c'est la Grèce, il y a très ancienne, et que nous avons été tour à tour déjà poissons ou oiseaux ou filles ou garçons. Voilà, là aussi, il a fait tomber les barrières entre les genres et entre les espèces.
Vous êtes toujours artiste plasticienne, Claudie Hunzinger. On n'a pas évoqué cet aspect de votre personnalité. Vous avez construit des bibliothèques en cendres, vous avez brûlé des livres, vous évoquez à l'intérieur de ce dernier texte, pour les réparer évidemment, vous évoquez dans ce dernier texte, Les Grands Cerfs, votre bibliothèque. Ça a l'air d'être un véritable bordel, votre bibliothèque. Oui. On y accède, il faut être spéléologue pour arriver à consulter les livres dans votre bibliothèque, dans votre métairie, perdue dans la nature. Oui, il faut faire quoi?
La mienne est très en désordre, mais je sais quand même où sont les choses. Oui, celle de Francis est ordonnée et est vraiment très nette. Et c'est aussi lui où se trouvent les choses. Nous avons deux bibliothèques. À chaque étage, chacun a la sienne. Nous nous prêtons parfois les livres. Il me les redemande très vite, Francis. Il n'aime pas se passer des livres. Même leur présence lui est nécessaire. Bon, les livres, c'est... Il y a les livres et puis il y a les bêtes. Là-haut, il me faut les deux.
Je voudrais qu'on termine sur ce mot que vous avez prononcé dans notre conversation, c'est le mot « chagrin ». C'est un mot important à l'intérieur de l'écriture de ce nouveau texte « Les grands cerfs », puisqu'il figure dans la dernière page de votre livre. Vous dites que vous ne revêtez plus des tenues de camouflage, vous n'avez plus besoin, puisque vous le savez maintenant, rester immobile au milieu de la nature pour attendre au petit matin ou au cœur de la nuit les grands cerfs. Et vous écrivez ceci dans la dernière page, Claudine Zinger. « Je retournais souvent marcher là-haut dans les forêts, cette fois sans filet de camouflage, sans but précis, juste pour user le chagrin. » De quel chagrin s'agit-il ?
Bien, c'est l'énorme chagrin de la perte. C'est le chagrin de la perte. Chagrin qui s'accompagne tout de même de la joie. Nous n'avons pas parlé de la joie. Mais la joie est quelque chose de très important aussi dans la survie. Parce que la joie naît de la survie. C'est la seule chose qui nous reste. La joie, pas le bonheur. Le bonheur est en plan de vie. Mais la joie, si. Parce que la joie tombe sur vous. La joie vous est donnée dans les pires moments, comme une voix très haute de soprano.
Ben, vous nous avez donné beaucoup de joie ce soir pour cette rentrée de l'heure bleue, Claudie Hunzinger. On va terminer sur Apollon. Vous l'avez appelé Apollon, c'est le cerf que vous préférez. On a essayé beaucoup de lui tirer dessus. On l'a peut-être blessé, mais il est toujours vivant. Il est où ? Il est près de chez vous ? Rassurez-nous.
Non, je ne l'ai pas revu. Je ne l'ai pas revu, Apollon. Je ne sais pas où il est. Non, je ne le sais pas.
Ben, j'espère que vous allez le retrouver demain dans la nuit, car vous allez repartir dans vos hautes huttes. Merci infiniment d'avoir fait le voyage pour nous. Et bravo, vraiment, du fond du cœur, pour ce texte qui paraît ces jours-ci et qui s'intitule « Les grands cerfs ». On l'a compris, vous êtes poète, vous êtes écrivain ou écrivaine, plutôt écrivain d'après ce que j'ai compris. Et donc pour vous, on va se quitter en écoutant une chanteuse. Je suis sûre que vous l'écoutez au fond de votre solitude dans les grandes huttes et les hautes huttes. Elle s'appelle Clara Luciani et son titre c'est Bovary, comme Emma. C'est pour vous.
Si je suis encore vivante, sinon quelle est cette douleur qui me hante? Mon corps se balance au-dessus d'une mer immense, mais je m'accroche à vous. Il ne me reste plus que quelques souvenirs d'enfance qui déjà deviennent flous. We'll be right back.
Le livre de Claudie Hunzinger vient de paraître et s'intitule Les Grands Cerfs aux éditions Grasset. C'était Bovary de Clara Luciani que nous venons d'écouter. Grande pensée pour notre chère Anne-Sophie Dazard. Merci à Élodie Royer, Adrien Ezeli, Louise Douillet. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Merci à Gilles Gaillard qui est à la technique ce soir. Et merci à Lilian Allôme qui a réalisé cette émission. Il est 21h10.